Voici le journal de Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une aujourd'hui l'abolition de la peine de mort, c'était il y a 40 ans jour pour jour. Emmanuel Macron, qui aime manier les symboles, commémore aujourd'hui cet anniversaire au Panthéon avec l'homme qui, en France, a changé notre justice, Robert Badinter. Les autres titres, Christelle.
Édouard Philippe nage-t-il entre deux eaux? L'ancien Premier ministre lance chez lui au Havre son parti tout à l'heure. Il en dévoilera le nom et les objectifs. Les Républicains redoutent déjà cette concurrence.
Oui, on va y revenir à 8h20 avec notre invité Arnaud Robinet, le maire LR de Reims. Il va rejoindre aujourd'hui le nouveau parti d'Édouard Philippe.
Qui dit profit dit taxe. 135 pays sont tombés d'accord pour taxer à 15% les bénéfices des multinationales. De quoi rapporter plus de 130 milliards d'euros. La symphonie numéro 10 de Beethoven mérite-t-elle toujours son nom d'inachevé? L'intelligence artificielle a fini le travail du compositeur 200 ans après. La classique des feuilles mortes n'est pas une symphonie, mais le tour de Lombardie cycliste que dispute entre autres Julien Alaphilippe. Philippe, aujourd'hui, on y revient à la fin de ce journal avec Maxime Fayol.
France Inter.
Il y a 40 ans, la France était le dernier pays de la CEE, la Communauté économique européenne à l'époque, à abolir la peine de mort. Robert Badinter l'obtenait du Parlement, alors que l'opinion y était encore largement favorable. Grâce à vous, avait-il plaidé devant les députés, la justice française ne sera plus une justice qui tue. En avril 2010, une guillotine avait été exposée pour la première fois au musée d'Orsay, et Nicolas Demorand était passé devant, avec l'ancien garde des Sceaux, un moment unique et puissant. Extrait.
La guillotine, je la connaissais. Je l'avais vue dans la cour de la santé. Elle est présente presque obsessionnellement depuis la Révolution française. Elle est aussi très présente dans les œuvres des peintres et des dessinateurs, encore plus présente dans la presse populaire. Bref, elle hante ce siècle et demi. Après l'abolition, j'ai écrit à M. Chirac, maire de Paris à l'époque, et qui avait voté l'abolition, disant voilà, la guillotine, elle ne doit pas disparaître, elle fait partie de l'histoire judiciaire de la France, donc il faut la mettre dans un musée, mais j'avais ajouté une condition, qu'elle ne soit pas exposée pendant 25 ans. Le délai est passé, et voyez-vous, quand je l'ai vue dans la cour de la santé, sous le dais noir, elle avait l'air une espèce d'idole sanglante qui attendait sa ration de mort. Maintenant, c'est une pièce de musée. Tout est dit.
Les mots de Robert Badinter. Aujourd'hui, Emmanuel Macron souhaite rappeler que ce combat contre la peine de mort reste toujours d'actualité, d'autant qu'un certain pas encore candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, y reste favorable. Une exposition au Panthéon est le prétexte pour une cérémonie avec le chef de l'État, avec Robert Badinter et les députés qui ont voté le texte à l'époque. Un symbole important, Antoine Gignoux.
Il faut d'abord montrer que le combat continue, lance Alain Tourret, député LREM du Calvados. L'an dernier, 18 pays ont eu recours à la peine de mort, c'est deux fois moins qu'il y a 20 ans.
Je me suis beaucoup battu avec Robert Badinter sur l'abolition universelle de la peine de mort. C'est ça son combat de toujours. C'est la gauche morale, la gauche qui représentait la défense des libertés.
Et ce sont ces valeurs de gauche que la majorité entend mettre en avant à l'occasion de cette journée de commémoration. Sacha Houlier est député de la Vienne.
Effectivement, au moment où on entend certains remettre en cause la loi abolissant la peine de mort, ou tous ces progrès de la justice, qu'on ait Robert Badinter en face pour rappeler ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, ou finalement les progrès qu'on a fait, ça marque, il en a été aussi l'incarnation de cette modernité et du progrès de la justice.
Une justice à laquelle il faut continuer de donner des moyens, rappellent plusieurs députés, notamment pour pouvoir imaginer des peines alternatives à la prison. Car même si le budget va augmenter l'an prochain de 8% pour la deuxième année consécutive, les besoins restent immenses. Les états généraux de la justice commencent dans une dizaine de jours.
Aujourd'hui, les trois quarts des pays dans le monde ont aboli la peine de mort. La Sierra Leone, hier encore. Quatre hommes proches de la figure des milieux complotistes d'ultra-droite, Rémi Daillet, mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des actions violentes. Trois ont été écroués. Le quatrième, qui a sollicité un débat différé, a été incarcéré provisoirement. Les suspects, âgés de 43 à 69 ans, dont deux anciens militaires, avaient été placés en garde à vue mardi dernier.
Édouard Philippe aura donc choisi sa ville du Havre pour mettre à flot son nouveau parti.
Il en dévoilera le nom à la mi-journée devant plus de 2 000 personnes. La majorité et la droite se sont montrées fébriles face à l'initiative de celui qui se définit comme loyal mais libre. Beaucoup de leurs représentants seront présents et dans l'expectative, en particulier chez les Républicains, des LR qui ont peur de se faire siphonner, Adrien Becht.
Un afflux de ralliements en deux temps. Les proches d'Édouard Philippe s'y préparent et l'espèrent. Première étape misée sur l'incapacité de la droite à se trouver un candidat. La fin de LR, c'est bien le 4 décembre, interroge en rigolant un proche de l'ancien Premier ministre, date à laquelle le parti a prévu de désigner son champion, avec le risque des divisions. Si Valérie Pécresse est shootée, certains iront chez Édouard, s'inquiète un LR. Ça commencera à bouger en début d'année si on n'émerge pas, complète un cadre. Deuxième salve espérée au moment de l'élection présidentielle, à condition qu'Emmanuel Macron soit en position de l'emporter. Voilà pourquoi Édouard Philippe met son parti en ordre de marche. Une charte des valeurs doit être présentée aujourd'hui. Nul doute qu'elle parlera à la droite, c'est l'objectif. Un congrès fondateur doit aussi avoir lieu avant la fin de l'année. Pile à temps pour espérer draguer des LR désabusés.
Et il en sera question tout à l'heure à 8h20 avec Arnaud Robinet, le maire LR de Reims. Qui sera le candidat socialiste pour l'élection présidentielle? Le Conseil national du PS en a validé deux candidatures, celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, grande favorite, et celle du maire du Mans, Stéphane Le Foll. Un accord historique, rien de moins. Les multinationales qui pratiquaient allègrement l'optimisation fiscale vont devoir payer une taxe de 15% sur leurs bénéfices à partir de 2023. L'OCDE a obtenu l'accord de 136 pays qui représentent 90% du PIB mondial. Pas d'échappatoire donc. Ça représente 130 milliards d'euros d'impôts supplémentaires et ça va changer la donne en Europe, comme le souligne Pascal de Saint-Amand, le négociateur de cet accord.
Le fait que l'Irlande, l'Estonie, la Hongrie, tous les pays de l'Union européenne maintenant sont dans l'accord, ainsi que les États-Unis et le reste des pays du monde, ça veut dire que les multinationales ne pourront plus mettre leurs profits dans des pays qui taxent en dessous de 15%. Ou si elles le font, elles seront taxées à au moins 15%. Les gagnants de la mondialisation, les 100 entreprises les plus grandes et les plus profitables du monde, qui cumulent à elles seules entre 500 et 600 milliards de profits, eh bien ces entreprises vont devoir payer une partie de leurs impôts dans les pays où se trouvent leurs consommateurs. Si vous cliquez sur l'application Google, vous générez une recette publicitaire qui aujourd'hui est enregistrée en Irlande. Eh bien demain, ce volet-là va également transférer de l'ordre de 125 milliards de dollars de profits de certains pays à d'autres pays. Tout ça, c'est pour reprendre l'expression du président Biden, réconcilier les classes moyennes avec la globalisation. Je crois que c'est très important, ça va au-delà de la fiscalité.
Pascal de Saint-Amand au micro de Laurent Kramer. En France, cette nouvelle taxe va ramener 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. La France n'a pas vocation à rester dans la durée au Mali. Déclaration d'Emmanuel Macron au sommet Afrique-France de Montpellier. Le chef de l'État était interpellé par de jeunes Africains qui réclamaient le départ des troupes françaises. Il précise que pour retirer les bases militaires du nord du pays, il faudra que l'État malien soit fort. La Pologne baisse d'un ton alors que la Cour constitutionnelle a contesté la primauté du droit européen sur le droit polonais. Le gouvernement nationaliste fait machine arrière. La place de la Pologne est et sera dans la famille européenne, assure le Premier ministre. 80% de la population est hostile à toute idée de sortie de l'Europe. Il y a un mois, le ministre israélien des Affaires étrangères proposait de renforcer les liens économiques entre Israël et Gaza à défaut d'un processus politique. Conséquence concrète, aujourd'hui, Israël va accueillir plus de travailleurs gazaouis. Ils sont 4500 actuellement, alors que le plafond est de 7000. La bande de Gaza est sinistrée économiquement, avec un taux de chômage proche de 50%. Alors, évidemment, les postulants se bousculent depuis 24 heures, quand le réalisme économique l'emporte sur le discours anti-israélien. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Frédéric Mettezo.
Ils disent qu'il y a des permis pour aller en Israël. Je veux travailler comme ouvrier en Israël.
Comme Abdallah Souissi, pochette en plastique à la main, ils sont des dizaines d'hommes agglutinés devant la chambre de commerce dans une rue sablonneuse. Ils tendent leur dossier aux policiers en treillis bleu.
Je leur ai donné une copie de ma carte d'identité et mon certificat de vaccination.
4 mois et demi après le cessez-le-feu, Mahmoud Al-Adda n'a pas oublié le dernier conflit.
Il y a eu une guerre et on vit encore en état de guerre. Aujourd'hui, je vis dans la guerre, la pauvreté, sous blocus, dans les décombres. Il n'y a pas de service de première nécessité à Gaza, donc je dois travailler pour offrir une vie décente à mes enfants. Je veux vivre, je n'ai pas le choix, je dois travailler.
Pour Youssef Al-Bara, Israël est un Eldorado et peut-être plus vraiment un ennemi.
Nous ne pouvons pas vivre ici. Personne ne pense à nous, le gouvernement à Gaza ou l'autorité palestinienne à Ramallah. J'ai 28 ans et j'ai seulement 1,50€ dans mon portefeuille. Je suis prêt à travailler n'importe où et si Dieu le veut, même pour une douzaine d'euros par jour. Si Dieu le veut, j'espère qu'il y aura la paix. On entend qu'il y a des discussions sur un échange de prisonniers.
En une matinée, cet afflux de demandes a généré de nouvelles activités. Les photocopies dans la rue à 15 centimes. Ici, seule l'économie de la débrouille tourne à plein. Gaza, Frédéric Mettezo, France Inter.
Une petite question, Eric. Est-ce que vous connaissez cette œuvre monumentale de la musique classique ?
Je ne vois pas ce que c'est.
Bon, je vous rassure, c'est pas votre culture générale qui est en cause. Il s'agit de la symphonie numéro 10 de Beethoven, dite inachevée, et qui vient de l'être, donc c'est normal que vous connaissiez pas cette musique, 200 ans après, donc, par la magie de l'intelligence artificielle, Nathalie Versieux.
Ce qui ressemble à la fin de la 10e symphonie de Beethoven est né du progrès technique et de l'intelligence artificielle. Le travail de logarithmes capables de simuler l'activité du cerveau humain, comme l'explique Matthias Röder de l'Institut Karajan de Salzbourg.
Composer comme Beethoven, comme ça en partant de rien, c'est impossible. Ce qui est possible en revanche, c'est d'enseigner à l'intelligence artificielle, comme on le ferait avec un être humain, des temps musicaux, des exemples, sur la base des quelle l'intelligence artificielle s'entraîne ensuite pour finalement composer de nouveaux morceaux dans le style de Beethoven.
L'Institut a rassemblé une équipe de compositeurs, programmateurs, de musicologues pour alimenter l'ordinateur, l'inspirer en quelque sorte, car sans le cerveau humain, rien n'aurait été possible. Ce n'est pas la première tentative du style. Déjà, l'intelligence artificielle avait tenté d'achever la 8e de Schubert et la 9e de Mahler avec un résultat mitigé à l'époque, selon les musicologues. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
On a achevé la symphonie numéro 10, on dirait le titre
Beethoven.
D'un thriller.
Pas convaincu, moi, personnellement. Peut-être aussi bon. Beethoven.
Peut-être Beethoven en même temps. C'est l'heure des sports.
Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Et en ce samedi automnal, on va parler de la classique des feuilles mortes.
Et plus connue sous le nom de Tour de Lombardie, dernière grande course cycliste de la saison. Et tous les mastodontes sont présents. Le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, celui du Tour d'Espagne, Primoz Roglic. Il y aura aussi des Français pour concurrencer les deux Slovènes, notamment Thibaut Pinot ou David Gaudu. Et surtout le double champion du monde, Julien Alaphilippe, qui voudrait bien accrocher cette classique à son palmarès après cette belle année.
Déjà porter le maillot toute l'année, ça a été quelque chose à part. Et voilà, après il y a eu des belles victoires, il y a eu des moments plus durs bien sûr, mais c'est mon rêve qui se réalise pour la deuxième fois. Donc je vais pas dire le contraire, c'est quand même quelque chose de vraiment spécial. Et c'est une année particulière que j'oublierai jamais, qui aura marqué ma carrière. Mais j'arrive ici motivé. Et voilà, c'est le dernier déplacement avant la coupure hivernale. J'ai bien récupéré après le championnat du monde et je me sens plutôt bien et motivé. Donc il faut juste rester tranquille et puis pas oublier qu'il y a beaucoup de coureurs qui veulent gagner ces courses-là. Donc on verra.
Julien Alaphilippe qui sera au départ de ce Tour de Lombardie à 10h30, arrivée prévue à Bergame en Italie vers 17h.
Handball. Les championnes olympiques françaises préparent l'avenir.
Elles disputent les qualifications pour l'Euro qui se tiendra l'an prochain. Et pas question pour les Françaises de s'encrouter avec leur titre olympique obtenu cet été. Le vivier de joueuses internationales s'agrandit. On appelle des forces vives, plus jeunes. Et ça marche plutôt bien jusqu'ici puisqu'elles ont battu la République tchèque cette semaine 38-22. La jeunesse prend le pouvoir, Marine Clette.
Moyenne d'âge des recrues, 22 ans. Elles font leur premier pas en équipe de France. Et parmi ces nouveaux visages, celui rayonnant d'Emma Jacques. Arrivée en France métropolitaine en 2016, après plus de 10 ans à La Réunion, elle vit sa première année professionnelle dans le club de Metz à seulement 19 ans.
C'est ce que je rêve depuis toute petite, d'être ici. On est fiers d'être là, mais toujours, moi je suis quelqu'un comme ça, je suis toujours un peu stressée, je me pose plein de questions, mais ce qui me rassure aussi, c'est que je suis pas la seule nouvelle. On essaye de toutes s'entraider et de faire au mieux pour apporter le plus à l'équipe.
Emma joue arrière droite, de l'autre l'autre côté du terrain, l'œil bienveillant de Coralie Lasource veille. La Brestoise de 29 ans a été nommée capitaine de l'équipe de France en juin dernier.
Sur le terrain, on s'est tapé dans les mains, on s'est regardé, on a souri. Moi, ça m'a fait plaisir de les voir marquer leur premier but. Je pense que j'ai plus un rôle de grande sœur.
Sur le banc, Olivier Crumbles, emblématique sélectionneur depuis 1998. Avec ses filles, l'entraîneur a déjà les yeux rivés vers 2024.
On va développer des stratégies pour préparer, renforcer nos jeunes joueuses. Et par exemple, on a décidé d'aller jouer les Jeux méditerranéens en juin 2022 avec une équipe de jeunes joueuses.
La France signe son retour dans cette compétition. Ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas fait le déplacement.
Et avant cela, les Françaises jouent demain en Ukraine à 17h, toujours en qualification de 7 Euro 2022. J'en termine par un mot de rugby à 13 avec cette bizarrerie géographique. Perpignan pourrait devenir champion d'Angleterre ce soir.
Ah oui,
les Dragons catalans disputent la finale de la Super League contre Saint-Hélène à Manchester. C'est la première fois que le club atteint la finale de ce championnat qui est le seul professionnel de la discipline.
Merci Maxime.
Maxime Fayol dans le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Avec du soleil aujourd'hui, du soleil après, un peu de grisaille matinale, Jean-Michel Golinski.
Un week-end très calme dans l'ensemble, les hautes pressions surplombent le pays, avec pour cet après-midi du soleil pour tout le monde, avec le développement de cumulus un peu plus nombreux en montagne et un ciel parfois plus voilé sur la pointe ouest. Par contre, en début de matinée, les grisailles souvent doublées de brouillard sont fréquentes, leur évolution sera plus lente qu'ailleurs, de l'Auvergne au Val-de-Saône et de la Normandie à la Belgique. En début de matinée, il faisait 11 à 15 degrés près de la Manche et de l'océan, 15 à 18 de la Côte d'Azur à la Corse et 5 à 8 sur les villes de l'intérieur, avec par exemple 5 sur la Haute-Saône, 6 sur l'Orne et la Champagne, 7 sur la Nièvre et la Dordogne. Cet après-midi, les valeurs vont afficher à peu près partout le même niveau que la veille, entre 16 et 21 degrés du nord de la Loire au Grand Est et 23 en moyenne dans la moitié sud.
Jean-Michel Golinski, Météo France.